À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Trouver un souffle nouveau pour traverser le mi-temps de la vie », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, soyez les bienvenus pour une nouvelle série d'émissions qui porte sur « Trouver un nouveau souffle pour traverser le mi-temps de la vie ». Nous allons donc parler de ce qu'on appelle généralement la crise du milieu de la vie, mais personnellement je préfère parler de transition du milieu de la vie, parce que ce n'est pas automatique que cela implique une crise ou que cela entraîne une crise. Et pour beaucoup de gens, ça correspond à une opportunité, un nouveau départ, une nouvelle possibilité. Souvent, on cible la période de 35, 40 à 60 ans. Mais ce n'est pas l'âge lui-même qui va provoquer éventuellement cette crise ou qui va faire démarrer la transition. Ça peut être un choc que l'on vit, un événement. Le fait de prendre conscience de son âge, oui, ça peut déjà être un élément. Mais aussi un accident, une maladie, une déception, un échec, etc., qui bouscule les certitudes et les habitudes. Dans ce travail que nous allons faire, parce que je parle de travail, parce que c'est tout un parcours, en fait, que nous allons franchir ensemble, je vais m'inspirer entre autres d'un psychiatre qui a écrit des choses très intéressantes, qui s'appelle Christophe Fauré. Je m'inspirerai particulièrement de son livre qui s'intitule « Maintenant ou jamais ». C'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui a traversé beaucoup d'expériences personnelles qui l'ont amené à faire une évaluation de sa propre traversée et d'en tirer des conclusions. Une autre auteure, c'est Françoise Millet-Bartoli, qui a écrit « La crise du milieu de la vie, une nouvelle chance ». Et encore d'autres auteurs que je citerai peut-être en cours de route, dont le père Anselme Grün, qui a parlé aussi de la crise du milieu de la vie dans « La vie monastique », en montrant que déjà des auteurs du Moyen-Âge ou un peu après le Moyen-Âge, parlait de crise du milieu de la vie en ce qui concerne la vie religieuse. Souvent donc, arrivé au milieu de notre parcours de vie, aux environs de la quarantaine, nous nous trouvons confrontés à un certain nombre de questions qui s'imposent à nous de façon telle que nous ne pouvons pas les éviter. Et nous allons voir justement, dans le parcours que nous allons vivre ensemble, comment certains essayent, résistent à ces appels à relire leur vie, à revisiter leur histoire, à voir ce que l'on peut abandonner et ce que l'on peut commencer de nouveau. Parce que c'est une occasion extraordinaire de passer d'une certaine extériorité liée aux exigences professionnelles et familiales à une intériorité qui nous permet d'être beaucoup plus personnels dans ce que nous vivons. Et précisément, Christophe Fauré raconte un petit peu ce que lui-même a traversé comme expérience. Il nous dit que, arrivé vers la quarantaine, lui-même a perdu le fil de son existence. C'est le sentiment qu'il avait ressenti. Il avait un cabinet médical qui marchait bien. Il était connu par le public grâce à ses livres. Il avait une vie de couple, un appartement. Mais il ne savait plus très bien pourquoi il était dans cette vie. Par son travail médical, il avait été régulièrement confronté à la mort, à la souffrance, au deuil, etc. Et arrivé à l'aube de ses 40 ans, ce fut véritablement un effondrement. quelle a été sa réaction? Pour lui, il a eu une réaction assez radicale, ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit réagir de la même façon. Mais il a tout quitté pour rentrer dans un monastère bouddhiste. Et là, pendant 2 années, il s'est mis à l'écoute des maîtres bouddhistes pour justement rechercher un sens à sa vie et se dépouiller de tout ce qui l'entravait dans le déploiement de sa personnalité profonde. Et il y avait trouvé d'une certaine façon sa maison. Jusqu'à ce que son maître lui dise « Tu as un métier, tu es médecin, tu as beaucoup travaillé sur le deuil. Est-ce que tu veux vraiment choisir la vie monastique ou revenir dans le monde et faire profiter le monde de tes découvertes à la fois médicales et à la fois spirituelles ?» Et il s'est rendu compte qu'il pouvait réunir ces deux dimensions de sa vie, le quotidien et le spirituel, dans sa pratique. Et c'est ainsi qu'il a accueilli sa vulnérabilité intérieure qu'il avait découverte au moment de cette crise, de ce passage difficile. Et il l'a acceptée, et il l'a utilisée pour la mettre au service des autres, en reprenant son travail de médecin, de psychiatre, de psychanalyste, d'accompagnateur et d'écrivain. À la question qu'on lui pose, est-ce que tout le monde traverse cette crise, ou en tout cas cette transition du milieu de la vie? Est-ce que c'est un passage obligé, une mutation nécessaire? Pour lui, c'est clair que tout le monde, un jour ou l'autre, est confronté à ces questions. Et il le voit autant chez ses patients qu'autour de lui. Entre 40 et 60 ans, on voit son corps se transformer. On voit que la relation de couple est peut-être moins enthousiaste ou se banalise. On voit ses propres parents vieillir. On voit ses enfants quitter la maison. Parfois, la vie professionnelle ronronne, on fait un peu toujours pareil, on commence à s'ennuyer. Et on ressent comme une urgence à s'accomplir. Aujourd'hui, on vit plus vieux que dans le temps, et quand on arrive à 50 ans, on se dit qu'on risque bien d'en avoir pour une bonne trentaine d'années devant soi. Les femmes qui sont plus proches de leur vie affective et plus conscientes de leur changement, entre autres parce qu'à ce moment-là, il y a de profondes transformations dans leur corps, sont plus aptes à prendre conscience de ce passage que les hommes. Et donc, souvent, elles affrontent plus directement cette transition du milieu de la vie. On lui demande pourquoi il parle de transition plutôt que de crise, ce qui est également ma position personnelle. C'est parce qu'en fait, s'il y a un moment critique, parce que crise, ça veut dire aussi moment critique, moment de discernement, moment de jugement, crise ne veut pas dire forcément catastrophe et écroulement de tout. C'est que ce moment de crise, ce moment critique, n'est en fait que la partie immergée et spectaculaire d'un long processus. Peu une image caricaturale qui circule à propos de la crise du milieu de la vie. C'est l'homme d'affaires stressé qui tout d'un coup abandonne tout et va faire le tour du monde en voilier. Ou bien c'est ce qu'on appelle le démon de midi où un homme se tourne vers une femme très jeune ou une femme vers un homme très jeune. La crise, c'est en fait ce qui est tout d'un coup révélateur, une sorte d'explosion, qui vient parce qu'en fait, on a refusé de reconnaître qu'on était anxieux de vieillir, qu'on n'arrivait plus à donner du sens à ce que l'on fait, et qu'il est urgent de regarder pourquoi, vers où, quel est le sens de ce qu'on fait. Et il est très possible de traverser cette période de façon consciente, comme une évolution plutôt qu'une révolution. Si on est lucide sur ce sentiment de déclin et de perte qui commence à nous traverser, et qu'on accepte de se tourner vers du neuf, reconstruire quelque chose. Certes, on peut essayer d'échapper à la maladie, à la dépression, à la crise. Si on accepte réellement de travailler et de préparer cette deuxième moitié de la vie. Et là, il y a tout un changement dans le rapport au temps. Notre temps dans la première moitié de la vie passe très vite. Et pour finir, quand on arrive vers la quarantaine, on a beaucoup couru, on a beaucoup sacrifié, on essaie d'arriver à des résultats visibles, reconnus, et on a envie de faire un bilan. Et nous y reviendrons plus tard et nous allons creuser cet aspect de façon approfondie. Mais c'est le psychiatre, le médecin psychiatre Carl Gustav Jung, qui est très connu, qui a beaucoup travaillé ces questions, sur cette nécessité pour vivre en société de se construire ce qu'il appelle, lui, la persona. Le mot persona qu'emploie Jung renvoie au masque qu'utilisaient les Grecs lors des mises en scène ou des drames que jouaient les Grecs de la Grèce antique, donc c'est très ancien. Ce masque que nous portons s'élabore entre ce que nous sommes fondamentalement et ce que nous avons intégré des règles et des exigences de notre société pour pouvoir se faire accepter, se faire aimer, adapter notre comportement aux exigences du milieu. Et en fait, cette période d'adaptation et d'accommodation avec soi-même est nécessaire pour exister au monde, pour être accepté, pour pouvoir fonctionner dans notre société. Mais cela implique aussi que l'on relègue dans l'inconscient, de ce qu'ici Jung va appeler notre ombre, nous y reviendrons, des parties de ça qui peuvent émerger en milieu de vie, des parties de notre être profond, qui tout d'un coup frappe à la porte lorsque nous arrivons vers le milieu de la vie. C'est par exemple ce garçon qui fait partie d'une famille d'universitaires, de gens qui ont été dans des grandes écoles, et tout le monde, le père, les frères, ont fait des études supérieures de ce type-là, et qui se trouve embarqué dans le même cursus, alors que profondément, il y a en lui une fibre artistique et un désir de se réaliser dans l'art et la création. Mais il a dû laisser tout cela dans l'ombre pour pouvoir être performant. Et voilà qu'à 50 ans, il déprime, et il ne se sent pas bien dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il comprenne le besoin de se reconnecter à cette part oubliée de lui-même pour pouvoir se déployer, pour trouver la plénitude. Comme si cette ombre, inconsciente, refoulée, soudain faisait pression. Alors que tout va bien en apparence, les besoins matériels sont satisfaits, les besoins sociaux, familiaux, on semble comblé. Et voilà que tout d'un coup, quelque chose vacille, se fragilise. Ça peut être aussi cette femme qui a beaucoup sacrifié de ses goûts pour son mari, ses enfants, épouse chaleureuse, mère remarquable, ayant un travail rémunérateur, et qui tout d'un coup, vers 40 ans, se dit « Mais qui suis-je? Pourquoi tous ces sacrifices? On m'avait promis que je me déploierais là-dedans, mais aujourd'hui, je ne suis absolument pas comblé. Pourquoi ? » Alors, que faut-il faire quand tout d'un coup ce malaise apparaît ? Eh bien, nous dit Christophe Fauré, surtout ne pas résister. Ne pas se dire que ça va passer. Et le danger serait de se précipiter dans encore plus de travail, de sport, de dérivatifs, qui nous ferait oublier le malaise. Il va revenir, parce qu'il n'est pas passager, parce que c'est une poussée de la vie et de notre être profond qui revendique sa place, sa réalisation dans notre vie. Alors la sagesse consiste à se poser, à en parler à ses proches, à des amis, à un accompagnateur psychologique ou spirituel. C'est l'occasion de tenir un cahier où on peut prendre note des changements des aspirations, des déceptions. C'est très utile d'avoir un carnet de notes que l'on peut relire régulièrement. Et surtout, c'est important de ne pas se précipiter pour passer à l'acte. Car on peut se tromper de réponse à une bonne question. Oui, je ne suis pas satisfait du stade où j'en suis. Oui, j'ai besoin de changer des choses profondes et importantes dans ma vie. Oui, il y a tout un potentiel en moi, cette ombre où se trouvent tous ces besoins que j'ai rejetés, toutes ces aspirations que j'ai oubliées. Je voudrais bien que tout cela puisse vivre et se déployer en moi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je cherche immédiatement une réponse, sans prendre le temps de la distance et du discernement? Est-ce que la meilleure façon d'accueillir cette soif, cet appel, ce cri, c'est la rupture brutale dans ma vie professionnelle ou familiale? Changer de conjoint, faire un nouvel enfant, abandonner ma profession? Tout ça n'est pas nécessairement la vraie réponse à une peur de vieillir ou de passer à côté de la vie. Et là se trouve une alternative. Ou bien fuir de nouveau dans des expériences et rester en extériorité. Je suis toujours à l'extérieur de moi-même. Je fais des choses, des nouvelles choses, de nouveaux apprentissages, de nouvelles relations, mais dans la précipitation. Ou bien approfondir cette question, creuser le malaise, regarder le présent, m'ouvrir vers un futur, mais en cohérence avec mon chemin de vie. Ce qui suppose que je reconnaisse qu'en fait ma vie c'est un chemin, un parcours, et qu'il y a comme un fil rouge qui parcourt cette vie, que nous allons creuser quand nous allons voir comment Carl Jung en parle de ce qu'il appelle le « soi », avec une majuscule. C'est-à-dire non pas le petit moi du masque que je me suis fabriqué, mais l'être profond que je suis, ce que la Bible appelle ce mystère que nous sommes, qui nous vient de notre vocation, qui nous vient de l'appel de Dieu, qui fait de nous un être absolument unique et que nous n'avons peut-être pas encore découvert. Et nous dit Fauré, c'est en partant sur le chemin de Compostelle et en commençant la méditation qu'une de ses patientes a réalisé qu'elle devait soigner son couple et mettre fin à une aventure extra-conjugale qui en fait ne lui jouait que le rôle d'un révélateur. Ce n'était pas une solution à son malaise. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter, discerner, prendre distance, prendre conseil pour essayer de trouver le juste chemin. Une autre question est posée, c'est que ne doit-on pas perdre de vue? Il faut en fait très largement regarder les possibles devant soi, élargir le champ des possibles, essayer d'avoir un regard neuf et curieux sur sa propre existence, y être capable de remettre en question ses vieilles croyances. Le danger, c'est de dire « le meilleur est derrière moi ». À mon âge, je n'ai plus les moyens, les ressources, la force. Je n'ai plus l'âge. Revisiter aussi ces aspirations créatives que nous avons pu avoir dans le passé, sans se fermer à aucune option. Et là, c'est très important d'avoir cette créativité et cette ouverture. Par exemple, Bernadette se lance à 50 ans dans une formation en chant semi-professionnelle. Et elle se met également à la peinture de l'icône. Et elle découvre que son envie de changement ne passait pas par l'abandon de son métier d'assistante sociale, qu'elle aimait beaucoup, mais par un réajustement des équilibres dans sa vie, un réajustement des priorités, de donner de l'espace à des dimensions de son être profond qui ne pouvaient pas exister, parce qu'elle avait tout rempli par toutes sortes d'activités qui, en fait, ne la comblaient pas vraiment. Donc il s'agit moins d'essayer de tout révolutionner que de construire à partir de qui on est et de revoir les priorités. Revoir sa relation de couple, revoir son rapport aux enfants, redonner peut-être une nouvelle place aux amis, écouter des aspirations profondes. Et pour un chrétien, se mettre à l'écoute d'un appel peut-être à une vie spirituelle plus profonde, à un retour aux sources, à prendre un temps de retraite, à faire un travail de discernement, à chercher un accompagnateur spirituel. Parce qu'effectivement, le mouvement de la deuxième moitié de la vie, cette transition du milieu de la vie, tend vers du spirituel. C'est le temps de la rencontre avec l'intériorité. Je l'ai dit, la première partie de notre vie, nous avons été obligés d'être dans la performance. Nous avons beaucoup dépendu de l'évaluation, du regard des autres, des statistiques, des rendements. Et on n'a pas pu vraiment laisser vivre la dimension spirituelle, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans l'éducation des enfants, ou dans la vie sociale ou politique. Mais voilà que reviennent des questions essentielles auxquelles j'ai fait allusion. Vers quoi tend ma vie? À quoi est-ce que ma vie sert? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? La dimension spirituelle, que ce soit dans le cadre d'une religion ou dans une spiritualité laïque, que ce soit un retour au christianisme ou la découverte du bouddhisme ou du yoga ou d'autres choses, c'est à ce moment-là, quand elle apparaît, que je peux me mettre en quête d'un sens. Un sens dans le sens d'une signification et d'une direction. Et cela peut se faire à un âge déjà avancé. Si nous voyons par exemple Sœur Emmanuelle, dont certains ont dû entendre parler parmi vous, cette religieuse qui s'est mise tout d'un coup au service des chiffonniers en Égypte, au Caire, alors qu'elle avait 65 ans. Elle était à la retraite de l'enseignement. Il s'est véritablement immergé dans ces bidonvilles et de ce milieu des pauvres et elle a commencé une nouvelle vie. Ou si nous voulons voir la personne de quelqu'un comme Mandela, qui a libéré son pays de l'apartheid après avoir passé tellement d'années en prison et qui ainsi, à cet âge-là, est devenu un grand homme politique. Alors il y a vraiment des personnes qui se déploient dans la deuxième moitié de leur vie. À la fois dans un enracinement dans le réel, dans la réalité qui les entoure, mais en restant aussi enracinés dans leur être profond. Et ainsi, cette aspiration de transcendance en nous, en y répondant, on ne s'enferme pas, mais on va au-delà de soi. Alors se pose la question, comment éviter que ce travail sur soi reste égocentrique? Parce que c'est vrai que cette transition du milieu de la vie est un moment où nous sommes presque acculés à regarder notre propre vie, à faire un retour sur qui nous sommes devenus, quelles sont nos aspirations profondes. C'est une phase de ralentissement dans nos activités. C'est un moment où sentons un appel à une mise à l'écart, à une recherche de solitude, à un certain retour sur soi, à prendre du temps pour soi, pour regarder l'essentiel. Et ensuite, c'est le moment de se construire dans l'intériorité, en profondeur, qui va déboucher plus tard sur un souci de l'autre. Car avoir accepté de faire le point sur sa vie, d'avoir fait certains deuils par rapport à des projets qui ne sont plus possibles, certains abandons par rapport à des idéalisations, certains regrets qu'on a lâchés, certaines réconciliations avec le passé, mais en même temps avoir laissé émerger des dimensions que nous avions laissées de côté, peut-être des dimensions artistiques, sportives, spirituelles, relationnelles. Alors la vraie question n'est plus simplement « moi », mais ma contribution au monde. Maintenant que je me suis retrouvé, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie pour en faire profiter les autres ? Le premier mouvement de ma vie m'a porté vers la consommation, l'acquisition. Mais l'axe essentiel de la deuxième est bien d'aller vers une transmission. Une transmission qui peut passer par un engagement social, par un développement de nos relations, peut-être par l'engagement vis-à-vis de nos parents âgés ou de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est un défi. Comment redonner et partager tout en répondant à une nécessité de silence, de prière, de retrait, de méditation. Il y a ce double mouvement d'intériorisation et de fécondité qu'on appelle parfois aussi la générativité. Et c'est ainsi qu'on peut se préparer une vieillesse riche de sens. Le sentiment de complétude, de justesse, d'authenticité, parfois de pacification, est signe de cette croissance qui se fait en nous. Dans la tradition ignatienne, nous dirons que c'est une expérience de consolation. C'est un signe qui ne trompe pas. Au lieu d'étouffer par des médicaments, des anxiolytiques, d'autres calmants, nos angoisses, nos dépressions, cela vaut la peine de regarder mon malaise, de regarder mes insatisfactions et d'entreprendre un chemin vers quelque chose de nouveau, une part de renoncement, une part de découverte. C'est la réponse saine et adaptée à mon être spirituel qui cherche à s'exprimer. Carl Gustav Jung, de même d'ailleurs que Frankl, dont je parlerai plus tard, était convaincu que de nombreux problèmes psychologiques émergent à la suite de la négligence ou de la non-prise en compte de la dimension spirituelle de l'être. Et pour Jung, ce qu'il appelle le processus d'individuation de la transition de vie est explicitement et implicitement un processus spirituel. Et nous verrons comment, dans la suite du chemin que nous allons parcourir, au fur et à mesure que nous allons creuser les appels que nous allons entendre émergeant de nos profondeurs, nous allons aussi nous enraciner sur un chemin spirituel qui va accompagner tout le travail de reconstruction de notre être profond.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.